Anatole France, Les sept femmes de la barbe bleue. Chapitre 2. Vers 1650, résidait sur ces terres, entre Compiègne et Pierrefonds, un riche gentilhomme nommé Bernard de Montragout, dont les ancêtres avaient occupé les plus grandes charges du royaume. Mais il vivait éloigné de la cour, qui voilait alors tout ce qui ne recevait pas de regard du roi. Son château d'Aiguillette abondait en meubles précieux, en vaisselle d'or et d'argent, en tapisserie, en broderie, qu'il tenait renfermés dans des garde-meubles, non qu'il cachât ses trésors de crainte de les endommager par usage. Il était au contraire libéral et magnifique. Mais en ces temps-là, les seigneurs menaient couramment en province une existence très simple, faisant manger leurs gens à leur table et dansant le dimanche avec les filles du village. Cependant, ils donnaient à certaines occasions des fêtes superbes qui tranchaient sur la médiocrité de l'existence ordinaire. Aussi fallait-il qu'ils tinssent beaucoup de beaux meubles et de belles tentures en réserve. C'est ce que faisait M. de Montragout. Son château, bâti au temps gothique, en avait la rudesse. Il se montrait du dehors assez farouche et morose, avec les tronçons de ses grosses tours abattus lors des troubles du royaume au temps du feu roi Louis. Au-dedans, il offrait un aspect plus agréable. Les chambres étaient décorées à l'italienne, et la grande galerie du rez-de-chaussée, toute chargée d'ornements en bosse, de peintures et de dorures. À l'une des extrémités de cette galerie se trouvait un cabinet que l'on appelait ordinairement le petit cabinet. C'est le seul nom dont Charles Perrault le désigne. Il n'est pas inutile de savoir qu'on le nommait aussi le cabinet des princesses infortunées, parce qu'un peintre de Florence avait représenté sur les murs les tragiques histoires de Dircé, fille du soleil, attachée par les fils d'Antiope aux cornes d'un taureau. De Niobé pleurant sur le mont Sipyle, ses enfants percés de flèches divines, de Procris appelant sur son sein le javelot de Céphalée. Ces figures paraissaient vivantes, et les dalles du porphyre, dont la chambre était pavée, semblaient teintes du sang de ces malheureuses femmes. Une des portes de ce cabinet donnait sur la douve, qui n'avait point d'eau. Les écuries formaient un bâtiment somptueux, situé à quelque distance du château. Elle contenait des litières pour 60 chevaux et des remises pour 12 carrosses dorées. Mais ce qui faisait d'Aiguillette un séjour enchanteur, c'étaient les canaux et les bois qui s'étendaient alentour et où l'on pouvait se livrer au plaisir de la pêche et de la chasse. Beaucoup d'habitants de la contrée ne connaissaient M. de Montragout que sous le nom de la Barbe Bleue, car c'était le seul que le peuple lui donna. En effet, sa barbe était bleue, mais elle n'était bleue que parce qu'elle était noire, et c'était à force d'être noire qu'elle était bleue. Il ne faut pas se représenter M. de Montragout sous l'aspect monstrueux du triple typhon qu'on voit à Athènes, riant dans sa triple barbe indigo. Nous nous approcherons bien davantage de la réalité en comparant le seigneur d'Aiguillette à ses comédiens ou à ses prêtres dont les joues fraîchement rasées ont des reflets d'azur. Monsieur de Montragout ne portait pas sa barbe en pointe comme son grand-père à la cour du roi Henri II. Il ne la portait pas en éventail comme son bisaïeul, qui fut tué à la bataille de Marignan. Ainsi que monsieur de Turenne, il n'avait qu'un peu de moustache et la mouche. Ses joues paraissaient bleues. Mais quoi qu'on ait dit, ce bon seigneur n'en était point défiguré et ne faisait point peur pour cela. Il n'en semblait que plus mal, et s'il en prenait un air un peu farouche, ce n'était pas pour le faire haïr des femmes. Bernard de Montragout était un très bel homme, grand, large d'épaules, de forte corpulence et de bonne mine, quoique rustique et sentant plus les forêts que les ruelles et les salons. Pourtant, il est vrai qu'il ne plaisait pas aux dames autant qu'il aurait dû leur plaire, fait de la sorte et riche. Sa timidité en était la cause, sa timidité et non pas sa barbe. Les dames exerçaient sur lui un invincible attrait et lui faisaient une peur insurmontable. il les craignait autant qu'il les aimait. Voilà l'origine et la cause initiale de toutes ces disgrâces. En voyant une dame pour la première fois, il aurait mieux aimé mourir que de lui adresser la parole. Et quelque goût qu'il en conçut, il restait devant elle dans un sombre silence. Ses sentiments ne se faisaient jour que par ses yeux, qu'il roulait d'une manière effroyable. Cette timidité l'exposait à toutes sortes de disgrâces, et surtout l'empêchait de se lier d'un commerce honnête avec des femmes modestes et réservées, et le livrait sans défense aux entreprises les plus hardies et des plus audacieuses. Ce fut le malheur de sa vie. Orphelin dès son jeune âge, après avoir rebuté par cette sorte de honte et d'effroi qu'il ne savait vaincre, les partis avantageux et très honorables qui se présentaient, il épousa une demoiselle Colette Passage, nouvellement établie dans le pays, après avoir gagné quelque argent à faire danser un ours dans les villes et les villages du royaume. Il l'aimait de tout son pouvoir et de toutes ses forces. Et pour être juste, elle avait de quoi plaire, telle qu'elle était, robuste, la poitrine abondante, le teint encore assez frais, bien que hâlé par le grand air. Sa surprise et sa joie furent grandes d'abord d'être une dame de qualité. Son cœur, qui n'était pas mauvais, se laissait toucher par les bontés d'un mari d'une si haute condition et d'une si forte corpulence, qui se montrait pour elle le plus obéissant des serviteurs et le plus épris des amants. Mais au bout de quelques mois, elle s'ennuya de ne plus courir le monde. Au milieu des richesses, comblée de soins et d'amour, elle ne goûtait pas d'autre plaisir que d'aller trouver le compagnon de sa vie foraine dans la cave où il languissait, une chaîne au cou et un anneau dans le nez, et de l'embrasser sur les yeux en pleurant. Monsieur de Montragout, la voyant soucieuse, en devenait soucieux lui-même, et sa tristesse ne faisait qu'accroître celle de sa compagne. Les politesses et les prévenances dont il la comblait tournaient le cœur de la pauvre femme. Un matin, à son réveil, Monsieur de Montragout ne retrouva plus Colette à ses côtés. Il la chercha vainement par tout le château. La porte du cabinet des princesses infortunées était ouverte. C'est par là qu'elle avait passé pour gagner les champs avec son ours. La douleur de la barbe bleue faisait peine à voir. Malgré les courriers innombrables envoyés à sa recherche, on n'eut jamais nouvelle de Colette au passage. Monsieur de Montragout la pleurait encore quand il lui advint de danser à la fête des Guillettes avec Jeanne de la Cloche, fille du lieutenant criminel de Compiègne, qui lui inspira de l'amour. Il la demanda en mariage et l'obtint incontinent. Elle aimait le vin et en buvait avec excès. Ce goût augmenta tellement qu'en peu de mois, elle eut l'air d'une trogne dans une outre. Le pis est que cette outre, devenue enragée, roulait perpétuellement par les salles et les escaliers, avec des cris, des jurements, des hoquets, et vomissant l'injure et le vin sur tout ce qu'elle rencontrait. Monsieur de Montragout en tombait étourdi de dégoût et d'horreur, mais tout aussitôt, il rappelait son courage et s'efforçait, avec autant de fermeté que de patience, de guérir son épouse d'un vice si répugnant. Prières, remontrances, supplications, menaces, il employa tous les moyens. Rien n'y fit. Il lui refusait le vin de sa cave, elle s'en procurait du dehors qui l'enivrait encore plus abominablement. Pour lui ôter le goût d'une boisson trop aimée, il lui mit de l'herbe au chat dans ses bouteilles. Elle crut qu'il voulait l'empoisonner, bondit sur lui et lui planta 3 pouces d'un couteau de cuisine dans le ventre. Il en pensa mourir, mais ne se départit point de sa douceur coutumière. « Elle est, disait-il, plus à plaindre qu'à blâmer. » Un jour, qu'on avait oublié de fermer la porte du cabinet des princesses infortunées, Jeanne de la Cloche y entra tout égarée, à son habitude, et voyant les figures peintes sur la muraille dans l'attitude de la douleur et près de rendre l'âme, elle les prit pour des femmes véritables et s'enfuit épouvantée dans la campagne, en criant au meurtre. Entendant la barbe bleue, qui l'appelait et courait à sa poursuite, elle se jeta, folle de terreur, dans la pièce d'eau et s'y noya. Chose difficile à croire, et pourtant certaine, son époux fut affligé de cette mort, tant il avait l'âme pitoyable. 6 semaines après l'accident, il épousa sans cérémonie Gigogne, la fille de son fermier Tréniel. Elle n'allait qu'en sabots et sans télonion. Assez belle fille, à cela près qu'elle louchait d'un œil et clochait d'un pied. Sitôt qu'elle fut épousée, cette gardeuse d'oie, mordue par une folle ambition, ne rêva plus que grandeur nouvelle et nouvelle splendeur. Elle ne trouvait point ses robes de brocart assez riches, ses colliers de perles assez beaux, ses rubis assez gros, ses carrosses assez dorés, ses étangs, ses bois, ses terres assez vastes. La barbe bleue, qui ne s'était jamais sentie d'ambition, gémissait de l'humeur altière de son épouse, ne sachant dans sa candeur si le tort était de penser glorieusement comme elle ou modestement comme lui. Il s'accusait presque d'une médiocrité d'humeur qui contrariait les nobles désirs de sa compagne, et plein de certitude, tantôt il l'exhortait à goûter avec modération les biens de ce monde, tantôt il s'excitait à poursuivre la fortune au bord des précipices. Il était sage, mais chez lui, l'amour conjugal l'emportait sur la sagesse. Gigogne ne pensait plus qu'à paraître dans le monde, à se faire recevoir à la cour et à devenir la maîtresse du roi. N'y pouvant parvenir, elle sécha de dépit et en prit une jaunisse dont elle mourut. La barbe bleue, tout gémissant, lui éleva un tombeau magnifique. Ce bon seigneur, abattu par une si constante adversité domestique, n'aurait peut-être plus choisi d'épouse. Mais il fut lui-même choisi pour époux par demoiselle Blanche de Gibomex, fille d'un officier de cavalerie qui n'avait qu'une oreille. Il disait avoir perdu l'autre au service du roi. Elle avait beaucoup d'esprit, dont elle se servit à tromper son mari. Elle le trompa avec tous les gentilshommes des environs. Elle y mettait tant d'adresse qu'elle le trompait dans son château et jusque sous ses yeux sans qu'il s'en aperçût. La pauvre Barbe Bleue se doutait bien de quelque chose, mais elle ne savait pas de quoi. Malheureusement pour elle, mettant toute son étude à tromper son mari, elle n'était pas assez attentive à tromper ses amants, je veux dire à leur cacher qu'elle les trompait les uns avec les autres. Un jour, elle fut surprise dans le cabinet des princesses infortunées en compagnie d'un gentilhomme qu'elle aimait, par un gentilhomme qu'elle avait aimé et qui, dans un transport de jalousie, la perça de son épée. Quelques heures plus tard, la malheureuse dame y fut trouvée morte par un serviteur du château et l'effroi qu'inspirait cette chambre s'en accrut. Le pauvre Barbe Bleue, apprenant d'un coup son abondant déshonneur et la fin tragique de sa femme, ne se consola pas de ce second malheur en considération du premier. Il aimait Blanche de Gibomex d'une ardeur singulière et plus chèrement qu'il n'avait aimé Jeanne de la Cloche. Gigogne Tréniel et même Colette Passage. À la nouvelle qu'elle l'avait trompé avec Constance et qu'elle ne le tromperait plus jamais, il ressentit une douleur et un trouble qui, loin de s'apaiser, redoublait chaque jour de violence. Ses souffrances étant devenues intolérables, il en contracta une maladie qui fit craindre pour ses jours. Les médecins, ayant employé divers médicaments sans effet, l'avertirent que le seul remède convenable à son mal était de prendre une jeune épouse. Alors, il songea à sa petite cousine Angèle de la Garandine, qu'il pensait qu'on lui accorderait volontiers, parce qu'elle n'avait pas de bien. Ce qui l'encourageait à la prendre pour femme, c'est qu'elle passait pour simple et sans connaissance. Ayant été trompé par une femme d'esprit, une sotte le rassurait. Il épousa mademoiselle de la Garandine et s'aperçut de la fausseté de ses prévisions. Angèle était douce, Angèle était bonne, Angèle l'aimait. Elle n'était pas d'elle-même portée au mal, mais le moins habile l'y induisait facilement à toute heure. Il suffisait de lui dire « Faites ceci de peur des oripeaux, entrez ici de crainte que le loup-garou ne vous mange, ou bien encore « fermez les yeux et prenez ce petit remède ». Et aussitôt l'innocente faisait au gré des fripons qui volaient d'elle ce qu'il était bien naturel d'en vouloir, car elle était jolie. Monsieur de Montragout, trompé et offensé par cette innocente, autant et plus qu'il ne l'avait été par Blanche de Gibomex, avait en outre le malheur de le savoir, car Angèle était bien trop candide pour lui cacher. Elle lui disait « Monsieur, on m'a dit ceci, on m'a fait ceci, on m'a pris ceci, j'ai vu cela, j'ai senti cela. » Et par son ingénuité, elle faisait souffrir à ce pauvre seigneur des tourments inimaginables. Il les souffrait avec constance. Cependant, il lui arrivait de dire à cette simple créature « Vous êtes une dinde » et de lui donner des soufflets. Ces soufflets lui commencèrent une renommée de cruauté qui ne devait plus s'éteindre. Un moine mendiant qui passait par les guillettes, tandis que M. de Montragout chassait la bécasse, trouva Mme Angèle qui cousait un jupon de poupée. Ce bon religieux, s'avisant qu'elle était aussi simple que belle, l'emmena sur son âne en lui faisant croire que l'ange Gabriel l'attendait dans un fourré du bois pour lui mettre des jarretières de perles. On croit que le loup la mangea car on ne la revit onque plus. Après une si funeste expérience, comment la Barbe Bleue se résolut-il à contracter une nouvelle union ? C'est ce qu'on ne pouvait comprendre si l'on ne savait le pouvoir d'un bel œil sur un cœur bien né. Cet honnête gentilhomme rencontra dans un château du voisinage, où il fréquentait une jeune orpheline de qualité nommée Alix de Pontalquin, qui, dépouillée de tous ses biens par un tuteur avide, ne songeait plus qu'à s'enfermer dans un couvent. Des amis officieux s'entremirent pour changer sa résolution et la décider à accepter la main de M. de Montragout. Elle était parfaitement belle. La Barbe Bleue, qui se promettait de goûter entre ses bras un bonheur infini, fut une fois de plus trompée dans ses espérances, et cette fois éprouva un mécompte qui, par l'effet de sa complexion, lui devait être plus sensible encore que tous les déplaisirs qu'il avait soufferts en ses précédents mariages. Alix de Pontalquin refusa obstinément de donner une réalité à l'union à laquelle elle avait pourtant consenti. En vain, M. de Montragout la pressait de devenir sa femme. Elle résistait aux prières, aux larmes, aux objurgations, se refusait aux caresses les plus légères de son époux et courait s'enfermer dans le cabinet des princesses infortunées, où elle demeurait seule et farouche des nuits entières. On ne sut jamais la cause d'une résistance si contraire aux lois divines et humaines. On l'attribua à ce que M. de Montragout avait la Barbe Bleue. Mais ce que nous avons dit tout à l'heure de cette barbe rend une telle supposition peu vraisemblable. Au reste, c'est un sujet sur lequel il est difficile de raisonner. Le pauvre mari endurait les souffrances les plus cruelles. Pour les oublier, il chassait avec rage, crevant chiens, chevaux et piqueurs. Mais quand il rentrait, harassé, fourbu dans son château, il suffisait de la vue de Mademoiselle de Pontalquin pour réveiller à la fois ses forces et ses tourments. Enfin, n'y pouvant tenir, il demanda à Rome l'annulation d'un mariage qui n'était qu'un leurre, et l'obtint selon le droit, canon et moyennant un beau présent au Saint-Père. Si M. de Montragout congédia Mademoiselle de Pontalquin avec les marques de respect qu'on doit à une femme et sans lui casser sa canne sur le dos, c'est qu'il avait l'âme forte, le cœur grand, et qu'il était maître de lui comme des guillettes. Mais il jura que rien de femelle n'entrerait désormais dans ses appartements. Heureux s'il avait jusqu'au bout tenu son serment.